Avec nous, RFI vous donne la parole.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous, très heureux de vous retrouver. Comme tous les jours, RFI vous propose de commenter l'actualité et dans une demi-heure maintenant, nous lancerons le débat sur la sécurité en Afrique. Comment le continent peut prendre en main sa propre sécurité? C'est tout l'objet du premier forum international de Dakar qui s'est ouvert aujourd'hui, qui s'est ouvert hier et qui se termine aujourd'hui. Alors c'est vrai que cette idée commence à faire peu à peu son chemin, même si certains projets sont de véritables serpents de mer, comme la création d'une force militaire panafricaine. Cela fait maintenant 10 ans qu'on en parle, mais se pose tout de même l'épineuse question du financement, de la modernisation des armées, sans oublier évidemment la crainte pour les États de perdre une partie de leur souveraineté. À quand une Afrique de la défense, de la lutte contre le djihadisme au Sahel, à la piraterie maritime dans le golfe de Guinée? Comment le continent peut-il anticiper et surtout gérer les crises? On en parle, vos réactions, vos témoignages évidemment au standard ici à Paris, 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et vous continuez évidemment à réagir sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI appel sur l'actualité. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI. Plusieurs confrères sont déjà à mes côtés pour répondre comme tous les matins à vos questions, des questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Christine Leraté, on va commencer avec vous. Bonjour Christine.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique d'RFI. On a plusieurs questions après la libération la semaine dernière de Serge Lazarevic. Ibrahim nous appelle de Gao. Bonjour Ibrahim.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci. Bonjour d'abord à vous, Juan Gomez, et à tous les auditeurs. La RFI avait annoncé que le Mali a libéré plusieurs djihadistes en échange de la libération de l'otage français, Serge Lazarevic. Maintenant, ma question est de savoir pourquoi le Mali a-t-il accepté l'échange de plusieurs djihadistes contre un seul otage français?
RFI l'a annoncé et vendredi, le ministre malien de la Justice a reconnu effectivement que 4 prisonniers ont été libérés en échange de Serge Lazarevic. Christine Muraté, c'est vrai que ces libérations suscitent l'incompréhension sur place au Mali. Il faut rappeler qu'il y a au moins 4 djihadistes. Hein.
Oui, au moins 2 jeunes originaires de Kidal, Mohamed Ali Agouadoussen et Iba Aga Chérif, 2 demi-frères qui se trouvent impliqués directement dans l'enlèvement de Serge Lazarevic et de Philippe Verdon à Ombori le 24 novembre 2011. Et ces deux-là sont membres d'Ansardine, la branche malienne d'ACMI. Et puis, il y a également 2 membres d'ACMI, 2 étrangers, un Tunisien, Oussama Ben Gouzi, et un Sahraoui du nom de Habiboul de Maouloud. Ces deux-là étaient des proches d'Abou Zeid, tué au printemps 2013 lors de l'attaque franco-tchadienne dans le Tel Rar, au nord de Kidal. Et donc, ces deux hommes ont été arrêtés par les Tchadiens au moment de la mort d'Abou Zeid. Et il faut bien reconnaître, Juan, vous le disiez, ici à RFI, nous continuons à dire qu'il y a eu l'échange d'au moins 4 personnes, car il existe un faisceau d'indices qui laisse penser que d'autres personnes ont été relâchées ailleurs qu'au Mali dans ce cadre d'échange contre l'otage français. Donc on travaille là-dessus.
Alors pourquoi un tel échange de la part de Bamako?
Tout simplement parce que Bamako n'a pas eu le choix. La libération de certains djihadistes était une revendication directe d'ACMI pour laisser la vie sauve à Serge Lazarevic. Or Paris n'a pas directement entre ses mains des terroristes d'ACMI. Ils sont emprisonnés au Mali, au Niger, en Algérie notamment, et Paris a donc demandé à ses partenaires, notamment aux Maliens, de libérer les personnes qu'ACMI souhaitait revoir en liberté. Alors le Mali n'avait pas le choix et cherche aujourd'hui à dire que c'est son honneur même qui était en jeu dans cette affaire. Vous le disiez, c'est le ministre malien de la Justice, Mohamed Ali Batili, qui l'a dit lui-même. Le Mali ne pouvait pas faire moins pour les ressortissants de pays qui l'ont aidé. Il faut quand même reconnaître que Paris, depuis 2 ans, a déployé son armée au Mali, d'abord pour arrêter la progression des djihadistes vers le sud du pays, puis désormais pour tenter de neutraliser les foyers islamistes dans la région sahélienne. En d'autres termes, Bamako, lui, devait bien ce service. Et d'ailleurs, le ministre malien de la Justice relativise l'affaire en disant que ce n'est pas la première fois qu'un tel deal est réalisé, notamment un échange de prisonniers entre le Mali et les groupes armés du Nord. Donc pour lui, c'est la même chose.
Le ministre relativise, en tout cas l'opinion publique, elle, perçoit très mal cet échange. Il suscite vide véritablement la compréhension sur place.
Oui, les autorités maliennes savaient qu'elles allaient subir les foudres de la rue et de la société civile, et a cherché d'ailleurs un temps à nier la réalité, mais la rue n'était pas dupe. Et dès les premières rumeurs d'échanges de prisonniers, l'indignation était partout à Bamako, sur les réseaux sociaux où l'on dénonçait un échange inique. Le Mali brade son devoir de justice, sacrifie les victimes et leurs familles. L'association malienne des droits de l'homme a fustigé le règne de l'impunité à la place de la justice, et l'opposition malienne a fait remarquer qu'un tel échange décrédibilise la lutte contre le terrorisme.
On repasse au standard, toujours sur cette libération. Bonjour Sababou.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Ségou, au Mali, on vous écoute. Oui,
le Mali vient de libérer au moins 4 djihadistes où il se trouve Mohamed Ali Wadifen. Donc ma question est la suivante, pourquoi l'État malien a-t-il libéré plus précisément c'est Mohamed Ali Wadifen?
Ouais. On parlait de la compréhension, Christine Muraté, au sein de l'opinion publique. C'est vrai que le cas de Hag Wadosen est encore plus insupportable pour les Maliens.
Oui, car ce Touareg, originaire de Kidal, membre dans Sardine, non content d'être un djihadiste, est aussi l'assassin d'un gardien de prison de Bamako. En juin dernier, avec des complices à l'intérieur et à l'extérieur de la maison centrale d'arrêt de Bamako, il a réussi à se faire la belle en tuant un surveillant. Et l'affaire a fait grand bruit à l'époque. Son arrestation quelques jours plus tard par les forces malienne dans une résidence à Bamako avait été un vrai soulagement pour les Maliens qui attendaient un procès exemplaire de ce djihadiste assassin, et voilà que Bamako le libère pour faire plaisir à Paris. Alors les réactions ont été sans nuance, un Français vaut donc plus qu'un Malien aux yeux du pouvoir de Bamako, le pouvoir malien se laisse marcher dessus par Paris. La presse malienne était remplie d'indignation et de haine.
Pourquoi Hakmi a demandé précisément la libération de ce Touareg?
Pour comprendre, il faut regarder du côté des ravisseurs de Lazarevic. Il s'agissait de djihadistes maliens proches d'Abdelkrim El Targhi, le premier Touareg malien responsable d'une Katiba d'Akmi. C'est un très proche de Yad Agrali. C'est aussi un très proche de Sida Naguita. Et ce dernier est un des hommes forts dans Sardine depuis ces derniers mois. Or, Sida Naguita n'est autre que l'oncle de Hag Wadosen et de Hag Cherif. C'est lui qui leur avait demandé d'aller enlever les deux Français à Ambori. Il tenait donc logiquement aujourd'hui à les faire libérer.
Restez encore quelques instants, Christine Muraté. Encore une dernière question. Moustapha, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour aux auteurs de la RFI.
Vous êtes à Conakry, en Guinée, soyez le bienvenu.
Oui. Par rapport à ces libérations controversées, ma question est de savoir quelles sont les conséquences de la libération de ces islamistes qui menacent la paix et la sécurité au Sahel.
Ah, Christine Muraté.
Alors, c'est vrai que spontanément, on se dit que leur libération ne fait que nourrir la pieuvre djihadiste. Comment remettre dans le circuit de tels terroristes est contradictoire avec la volonté affichée par tous de lutter coûte que coûte contre le terrorisme. Mais, Juan, à côté de cela, en fait, l'opération antiterroriste lancée au lendemain de la libération de Lazarevic par les Français donne l'occasion à Paris de faire passer un message. Notre mission antiterroriste continue. D'ailleurs, donc, la France a annoncé avoir éliminé un chef Moujao, Ahmed Altel, avoir neutralisé plusieurs de ses lieutenants. Et le ministre français de la Défense dit qu'il n'y a pas de lien entre les deux événements. En tout cas, sans otage entre les mains des djihadistes, la France peut avoir désormais les coudées plus franches pour taper là où ça fait mal. Les services français, tout comme les Américains, ne cachent pas que leur objectif, c'est d'éliminer les chefs terroristes de la région, dont Mokhtar Belmokhtar, le fondateur du mouvement Al-Mourabitoun, mais aussi Yad Agrali, l'ancien leader charismatique des Iforaf, qui est aujourd'hui devenu un élément majeur d'Al-Qaïda dans le Sahel. Donc, les Français, depuis plusieurs mois, avec Barkhane déployé sur toute la zone, ont bloqué plusieurs convois au nord du Niger en provenance du Mali. Plusieurs éléments clés dans Sardine ont été tués ou arrêtés. C'est des prises majeures qui ont permis de couper des canaux d'approvisionnement en armes et en hommes pour les mouvements du Nord Mali. Et apparemment, les Français ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.
À suivre donc. Merci beaucoup, Christine Muraté, d'être venue dans ce studio répondre à quelques questions que nous avons reçues après la libération donc de l'otage français Serge Lazarevic. Toutes vos questions à la rédaction, 33 9 693 693 70. On me parle en même temps au casque avec vos arrivées au standard, vos appels et vos commentaires. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, notre débat du jour sur la sécurité en Afrique. Sauter est avec nous. Il nous appelle de Bordeaux. Bonjour Sauter.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tout le monde, tous les auditeurs de Radio Mondiale.
Vous avez des questions concernant le Togo?
Oui, voilà, j'ai une question à poser que vous allez essayer de m'expliquer comme si j'étais un enfant de 7 ans. Voilà.
Allez-y.
Il y a encore 2 jours, toute L'opposition était dans la rue, dans 5 villes au Togo, pour demander au pouvoir en place, n'est-ce pas, de revenir sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles, à savoir le mode de scrutin à deux tours et la limitation présidentielle avant les élections 2015. Bon, ma question, elle est très simple, c'est de savoir sur quelle procédure judiciaire l'opposition peut-être se baser pour avoir gain de cause avant cette élection en 2015.
Oui, l'opposition qui exige une révision de la Constitution. Bonjour Olivier Roger.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Il s'agit, comme le disait à l'instant Sauter, notamment de limiter le nombre de mandats du président de la République. Sur quelle procédure l'opposition s'appuie aujourd'hui, effectivement, pour exiger une telle réforme de la Constitution ?
Alors, pour répondre clairement à Sauter, qui a besoin d'explications, comme tout le monde d'ailleurs, parce que c'est un dossier un peu compliqué, ce qu'il faut voir d'ailleurs, paradoxalement, contrairement à d'autres pays où le président veut changer la constitution pour se maintenir au pouvoir, eh bien dans le cas togolais c'est le contraire, c'est-à-dire que la majorité défile dans les rues de Lomé en disant touche pas à ma constitution, et l'opposition dit non, il faut la modifier cette constitution. Alors pourquoi l'opposition demande une modification de la constitution ? D'abord parce que celle-ci ne limite pas le nombre de mandats que peut effectuer un président, et en plus elle prévoit un scrutin à un tour, ce qui bien évidemment donne beaucoup plus de chances au président sortant. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que depuis 5 ans, les Togolais, majorité et opposition, discutent autour de cette idée d'une réforme de la Constitution. Et le projet qui est sorti depuis le mois de juillet est le fruit d'un consensus entre la majorité et l'opposition qui prévoit une limitation à 2 du nombre des mandats et le rétablissement d'un scrutin à 2 tours. Malheureusement,
effectivement, en juillet dernier, on l'a vu, la majorité a voté contre ce projet qui pourtant reprend les revendications principales de l'opposition.
Et qui était un projet déposé par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que ce qui pose problème au président Faure Gnassingbé, c'est qu'il souhaiterait que cette réforme ne soit pas rétroactive. C'est-à-dire que la nouvelle constitution qui entrerait en vigueur avec une limitation à 2 du nombre des mandats, eh bien remette en quelque sorte à 0 ses compteurs personnels. C'est-à-dire qu'il puisse sans souci se présenter une nouvelle fois en mars prochain, en mars 2015. Or, le projet de révision comporte une petite ligne qui gêne beaucoup la présidence, car il est stipulé que un président ne peut effectuer plus de 2 mandats. Or, Faure Gnassingbé en a déjà effectué 2.
Et donc, il redoute que l'opposition lui conteste le droit de se présenter à nouveau.
Voilà, le président craint qu'une fois le texte adopté, une fois que la réforme sera entérinée, l'opposition ne s'en serve pour dénoncer sa candidature en s'appuyant sur le fait que nul ne peut effectuer plus de 2 mandats. Et d'ailleurs, lorsque l'on demande au chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, s'il serait prêt à ce que la non-rétroactivité de cette réforme soit inscrite en toutes lettres dans le texte, eh bien, Jean-Pierre Fabre est très évasif. Et c'est cette ambiguïté qui empêche Faure Gnassingbé d'accepter la réforme constitutionnelle et la majorité de la voter à l'Assemblée. Cette méfiance, pour l'instant, bloque le processus.
Alors, si la majorité et l'opposition ne se mettent pas d'accord, le président a dit que les Togolais voteraient avec l'ancienne constitution, ce qui n'arrangerait pas du tout l'opposition.
Oui, ça n'arrangerait pas l'opposition, car on l'a vu, un scrutin à un tour et une non-limitation des mandats présidentiels fait le jeu de l'actuel pouvoir. Alors, le problème, c'est que toute solution, maintenant, à cette étape du processus, devrait être consensuelle, c'est-à-dire que tous les acteurs politiques devront être d'accord avec la réforme, car il existe une disposition au sein des pays de la CDAO, de l'Afrique de l'Ouest, qui prévoit que l'on ne peut pas réformer une constitution 6 mois avant une élection, sauf si tout le monde est bien évidemment d'accord. Pour l'instant, tout le monde n'est pas d'accord, on l'a vu, mais entre ceux qui veulent les garanties, ceux qui leur refusent les garanties, il y a peut-être une troisième voie, c'est celle que prônent certains opposants, comme Agbeyome Kodjo. Lui, il dit, puisque la situation est bloquée, on pourrait peut-être laisser Faure Gnassingbé briguer un troisième mandat, mais, on lui donne un engagement politique ferme de ne pas se représenter en 2020, on signe un accord politique avant les élections, il s'en engage fermement à faire un tout dernier mandat et peut-être qu'à ce moment-là, le président accepterait. Rien ne dit cependant que celui-ci acceptera, ni même que le chef de l'opposition acceptera cette solution.
Ouais, solution d'ailleurs, en tout cas, ce qui est important à souligner, c'est que Jean-Pierre Fabre et une partie de l'opposition comptent sur la rue pour faire admettre leur solution. C'est d'ailleurs la question que nous pose Pablo. Je vais me faire rapidement son porte-parole. parole. Il est à Lomé, il revient sur toutes ces manifestations organisées ces dernières semaines et il nous dit, est-ce que la mobilisation des partis politiques et des associations de la société civile peut faire basculer le rapport de force en faveur de l'opposition?
Ouais, on pourrait paraphraser Clausewitz, c'est dire par exemple que la manifestation est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Et en tout cas, c'est ce que espère une partie de l'opposition et notamment Jean-Pierre Fabre, qui compte sur une mobilisation de la rue, sur une mobilisation populaire pour faire admettre au président Faure une solution doit être trouvée et qu'il doit accepter cette réforme. Pour l'instant, bien évidemment, en arrière-pensée, certains hommes politiques pensent peut-être au cas burkinabé en espérant une forte mobilisation et une peur du pouvoir vis-à-vis de ces manifestations de rue. Pour l'instant, on peut pas dire que ça fonctionne vraiment, mais bien évidemment, on est au début du processus. Il faut savoir que le pouvoir s'attache à démontrer qu'il n'est pas isolé, et lorsque l'opposition a manifesté avec force il y a environ un mois, eh bien le pouvoir avait organisé une contre-manifestation afin de démontrer qu'il n'est pas isolé lui non plus. On est donc pour l'instant au début d'un bras de fer qui risque de se prolonger pendant le premier trimestre de l'année prochaine.
Et on aura l'occasion de suivre évidemment la situation sur place et d'en parler avec vous, auditeurs, notamment dans la libre antenne, le vendredi 33 9 693 693 70. Merci Olivier Roger.
Merci
à bientôt. Je remercie évidemment Pablo qui nous appelait de Lomé et Sauter qui était en ligne de Bordeaux. Ray est avec nous au standard. Bonjour Ray.
Bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Montaigne.
Vous nous appelez de Brazzaville et vous avez une question concernant la chute du cours du pétrole.
Évidemment, j'ai deux questions concernant la chute du prix de base de pétrole. Et la première est celle de savoir quelles peuvent être les conséquences de la chute du prix de baril sur les économies des pays d'Afrique exportateurs de pétrole.
C'est vrai que les cours du pétrole ne cessent de plonger. Ils ont perdu 40% en 5 mois. Ils sont désormais sous la barre des $70. Bonjour Claire Fage.
Bonjour,
merci
bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre Claire. Vous présentez tous les jours la chronique des matières premières. C'est vrai que les prix du pétrole se sont effondrés entre les États-Unis qui produisent toujours plus de pétrole de schiste, l'Irak qui parvient, malgré la crise, malgré la guerre, à exporter toujours plus de brut. On voit d'un autre côté que les pays consommateurs, et notamment les Chinois, achètent de moins en moins de pétrole. Il y a donc, on peut le dire, trop de pétrole disponible sur le marché, d'où le plongeon des cours. Quel est l'impact justement de la chute des prix du brut sur les pays africains qui produisent du pétrole?
L'impact est très important évidemment sur les revenus que tirent les pays africains de la vente du brut, puisqu'ils le vendent moitié moins cher. C'est autant de devises en moins pour équilibrer les budgets ou pour importer des produits de première nécessité dans les pays qui n'ont pas diversifié leur économie du pétrole, comme l'Algérie. Elle dépend à 98% des hydrocarbures, ou le Tchad qui double son PIB grâce au pétrole. Mais l'impact est très variable selon les producteurs d'or noir du continent, selon qu'ils ont une population importante ou pas. Entre le Nigeria et l'Angola, par exemple, les deux plus gros producteurs africains, le Nigeria est beaucoup plus fragilisé. Il est d'abord beaucoup plus touché par la baisse des importations des États-Unis parce qu'il produit le même pétrole léger, directement concurrent des pétroles de schiste américains, alors que l'Angola produit du pétrole plus lourd, dont les raffineries américaines peuvent encore avoir besoin.
Et le Nigeria est beaucoup plus peuplé que l'Angola.
C'est vrai, donc son budget a une portée sociale beaucoup plus importante que celui de l'Angola, dans un contexte politique, on le sait, très délicat, avec les attaques de Boko Haram et les prochaines élections. Or, les dépenses seront forcément revues à la baisse, sur la base d'un pétrole à moins de $70. Tout cela alors que la production nigériane de brut est régulièrement volée et qu'elle décline, faute de loi sur les investissements pétroliers.
Et pour les autres États, ceux qui sont, on va dire, plus petits?
Voilà, il y a le Gabon, le Congo-Brazzaville, des pays pétroliers de longue date, mais à faible population, donc ils devraient moins souffrir. Ils sont en train de relancer leur production. Elle stagnait. D'ici là, les prix auront peut-être rebondi. Il y a aussi les nouveaux venus, les nouveaux producteurs africains, la Côte d'Ivoire, le Ghana, ils ont heureusement d'autres sources de revenus. Puis le Sénégal va prendre son temps pour développer les gisements qu'il vient de découvrir. S'ils ne sont pas rentables au prix actuel, la République démocratique du Congo, elle pourrait revoir ses projets pétroliers les plus contestés, notamment ceux qui sont situés près du parc naturel des Virunga. Ils risquent d'être enterrés par les compagnies étrangères.
Alors, restez avec nous, Claire Fage, on va vous retrouver juste après le point complet sur l'actualité avec Ray, qui patiente au standard. Il est à Brazzaville, il a une dernière question à nous poser concernant donc la chute des cours des barils du pétrole. Et on se retrouvera également pour notre débat du jour consacré ce matin à la sécurité en Afrique.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.